dès 9h sur Radio 1, tous les jours.
Béni soit-il.
C'est une vidéo qui enflamme les réseaux sociaux et cumule des millions de vues. Hold up, une critique censée démontrer les mensonges sur la Covid-19, propagés par le gouvernement, l'industrie pharmaceutique ou les médias. Un film aux nombreuses contre-vérités. Certains faits sont réels, mais l'argumentaire déroule au moins une trentaine de fausses informations. Par exemple, cette phrase.
La France, elle n'applique pas les recommandations de l'OMS. L'OMS ne dit pas que tout le monde doit mettre un masque.
C'est faux, la position de l'OMS a évolué depuis juin, voilà ce qu'elle dit.
L'OMS conseille désormais aux autorités, pour prévenir efficacement la transmission de la Covid-19, d'encourager le port du masque par le grand public.
Un autre infox cette fois sur l'origine du virus.
Finalement, il n'est pas dangereux ce virus. Il est un peu plus dangereux que le coronavirus naturel, puisqu'on a foutu des saloperies. Mais c'est pas dangereux. Ce qui est très dangereux, c'est le vaccin qui va en sortir.
Par qui a été fabriqué ?
Tout a été fabriqué par l'Institut Pasteur.
Pour le professeur,
un brevet bien exhibé, daté de 2003, au nom de l'Institut Pasteur. Mais là encore, c'est faux. Le brevet ne concerne pas le virus du Covid-19, mais un autre coronavirus. Et surtout, l'Institut n'invente pas de nouveaux virus.
Le brevet d'invention, c'est un terme technique. C'est donc protéger un procédé, une façon de faire un test diagnostique, un traitement. Ça ne veut pas dire qu'on a inventé le virus. On peut
modéliser... Un internaute ayant relayé cette affirmation a d'ailleurs été condamné pour diffamation. Alors, quelle est la recette de ce succès ? Le film est financé via une cagnotte en ligne, montant récolté près de 200 000 euros. Il reprend tous les codes d'un documentaire. Problème, il n'y a aucune contradiction. Une astuce prisée des complotistes. Cela s'appelle le millefeuille argumentatif.
C'est l'idée qu'on va superposer des arguments qui n'ont pas forcément de lien entre eux, mais en les superposant, on va donner une espèce d'impression de cohérence qui va avoir un impact sur nous et qui va donner l'impression que finalement tout ça se tient, qu'il n'y a pas de fumée sans feu et qu'à la fin, eh ben, tout ça est crédible. C'est terrifiant, mais ça marche comme ça.
Des arguments portés par des experts, parfois sujets à caution. Hold Up enchaîne des entretiens d'élus, de scientifiques, de médecins, dont certains contestés dans leur domaine. Depuis mars, ils profitent de la peur du virus, de l'incertitude, pour propager leur thèse, sans jamais être inquiétés.
Ils n'ont jamais, jamais à rendre le moindre compte. Ils sont dans une irresponsabilité totale et je pense qu'il faudrait rééquilibrer, peut-être par la loi, les choses.
Face à la polémique, plusieurs participants au film affirment avoir été piégés. Philippe Douste-Blazy, ancien ministre de la Santé, ou Monique Pinson-Charlot, sociologue. Dans la vidéo, elle comparait l'épidémie au génocide de la Seconde Guerre mondiale.
Voilà, c'est toute l'histoire de ce documentaire qui a déjà dépassé les plus 3 millions de vues dans le monde. Donc comme vous l'avez vu, hein, et d'ailleurs c'est intéressant de voir à quel point justement le fait d'avoir été chercher toutes ces contre-vérités a boosté les vues de ce film. Alors est-ce que ça a été une bonne idée justement d'aller essayer de relever toutes les erreurs, toutes les fautes qui ont été commises? Vous pouvez réagir aujourd'hui au 40 43 61 00. La première question d'abord, est-ce que tu as vu le documentaire pour pouvoir en faire ta propre réflexion, hein? Et deuxièmement, est-ce que tu as pu voir justement toutes les contre-vérités qui ont été trouvées à l'intérieur? Alors, encore une fois, je ne suis pas certain que ce soit une super bonne idée d'avoir joué comme ça pour les médias, surtout lorsqu'on prend des exemples qui ne pèsent pas forcément lourd dans la balance. Est-ce qu'on n'est pas justement, lorsqu'on réagit comme ça, en train de donner du crédit à ce genre de propos? Est-ce qu'aujourd'hui, effectivement, sur 2h43, en retenant quelques failles comme ça, on va réussir à faire changer le point de vue des gens qui sont dans cet état d'esprit, dans cette théorie du complot? Est-ce qu'au contraire on leur donne pas plus de force, hein, parce que voilà, les arguments sont toujours les mêmes. C'est, vous voyez, si on en parle autant dans les médias, c'est parce que c'est vrai et que ça dérange, etc. À chaque fois on va trouver des arguments pour pouvoir défendre sa cause. Et aujourd'hui, bah, je vous le propose, 40 43 61 00, qu'est-ce que vous avez pensé du documentaire, qu'est-ce que vous avez pensé des choses qui ont été déclarées? Là, lorsqu'on parle de Douste-Blazy, hein, le ministre, qui effectivement a décidé de se désolidariser, hein, du film après avoir vu à quel point il est catalogué comme étant un film de complot, il faut savoir quand même que c'est ce qu'il a dit dans le film. C'est que l'hydroxychloroquine a une efficacité reconnue et elle est inoffensive. Il l'a déclaré. D'accord. Sauf que et il a dit qu'il y a plus de 2 millions de personnes qui ont pu prendre de l'hydrochloroxine. Et une fois qu'on lui dit que c'est un film complotiste, il dit « Oh ben je suis désolé, je me désolidarise ». Ça n'enlève pas son discours. Donc, allez essayer d'aller chercher toutes les petites bêtes comme ça. Je suis pas forcément certain que ça va dans le bon sens. En tout cas, dans le sens où veulent aller aujourd'hui les médias. Nous, aujourd'hui, à Radio 1, ce qu'on vous propose, c'est d'en discuter. C'est d'en parler. Est-ce qu'effectivement, vous êtes avec cette état d'esprit, est-ce que vous avez peur par exemple de la 5G, est-ce que vous avez peur de la nanotechnologie utilisée par Bill Gates pour pouvoir nous mettre un virus dans le corps, est-ce que vous avez peur de ces choses-là, ou est-ce que après réflexion on peut juste discuter des vraies choses, parce que ce genre de documentaire utilise des vérités pour en faire des contre-vérités bien souvent malheureusement. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Radio 1, bonjour.
Oui, bonjour Benny.
Oui, qui est à l'appareil?
C'est Gilles.
Bonjour Gilles, comment vas-tu?
Alors, je te prends à la volée, là, parce que je viens d'entendre ça.
Oui.
Je suis en voiture, bref, je m'arrête. Alors, première chose, déjà, est-ce que tu sais que la Polynésie... Attends, je vais fermer mon rame radio.
Oui, s'il te plaît.
Est-ce que tu sais que la Polynésie a autorisé à nouveau les médecins...
Tout à fait, bien sûr. On l'a annoncé en premier sur Radio 1 avec le docteur Théron qui a...
Ah d'accord.
Qui a dit qu'il était...
J'ai pas entendu.
Oui,
au
il y a
début,
la...
j'ai pas entendu.
En Polynésie, donc, dans les grandes villes, on a l'autorisation de represcrire de l'hydrochloroxine.
Oui, donc j'avais pas entendu ça. Mm-hmm. Mais ce qui est assez drôle, c'est de dire que ce document est fallacieux et qui dit des conneries. Parce que quand on regarde bien l'histoire de la surfacturation des médecins, c'est réel. Ça fait partie d'un décret de la santé française, aussi bien pour les médecins pratiquants en ville que pour l'hôpital, qui a le droit de facturer un peu plus cher. Bon, peut-être pas non plus exagéré, c'est peut-être pas non plus des sommes énormes, mais ils ont le droit.
Alors, l'affirmation est lancée par Violaine Guérin dans le film. Ouais. Elle est cofondatrice du collectif Laissons les prescrire avec la députée Martine Vonnet. Elle est aussi intervenante dans ce film et ce collectif a voulu lancer une étude sur l'hydroxychloroquine. Et Violaine Guérin prend l'exemple des consultations de médecins généralistes comme 20 minutes l'expliquait en mai. Une consultation pour un patient positif au Covid-19 est bien majorée de 30 euros. Donc là c'est pas le documentaire qui le dit, hein. C'est 20 minutes hein, qui veut aller chercher justement les contre-vérités. En plus des 25 euros d'une consultation en secteur, la réalisation d'un test antigénique est facturée 46 euros. Voilà la réalité des choses. Et eux, ils racontent que effectivement, lorsque tu déclares Covid, ils vont gagner plus d'argent et il va y avoir des indemnités. Et toi, tu dis que tu as l'information là-dessus?
Bah oui, parce que c'est il y a un type là qui est du côté de Strasbourg. Alors comme j'ai pas une mémoire d'âne, je pourrais pas te dire le lien, mais qui a montré les décrets et tout de l'assistance publique des hôpitaux de Paris et tout, enfin des hôpitaux, je sais plus comment ça s'appelle cet organisme, mm-hmm. qui dit nettement que voilà, vous pouvez surfacturer quand c'est Covid. Mmh. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont que les médias se sont immédiatement écriés ouais, c'est des fake news, mais non, quand on vérifie les choses et qu'on creuse un peu, on s'aperçoit que c'est vrai.
Alors,
c'est tout.
Est-ce qu'on va être objectif en disant effectivement sur les 2h43 il y a peut-être des informations qui ont été exagérées, il y a peut-être des fausses vérités, mais il y a quand même eu des choses qui ont été dites dans ce documentaire qui ont été vérifiées, qui sont vraies alors?
Bien entendu. Et quand on prend Madame Vonner, là, qui est une femme admirable, mm-hmm. Quand elle parle de Véran, de ce qu'il a fait, de ce qu'il a dit, elle était là, donc elle est pas folle quand même, hein. Mmh. Faut pas dire qu'elle raconte des histoires. Hein. Voilà, c'est tout. Donc avant de rejoindre toute la bande des moutons de panurge là, qui disent ah c'est pas vrai, c'est les fake news, patati patata, faudrait peut-être un petit peu se renseigner. Voilà, c'est tout.
D'accord.
J'en ai pas plus à dire.
Alors passe une belle journée, mon Gilles. Bonne journée, bonne
okay,
semaine.
Nana.
Salut. Alors voilà, ce qui est intéressant avec Gilles, hein, et c'est comme ça que j'aimerais que ce soit avec tout le monde, c'est qu'on garde son calme, on essaie d'apporter ses arguments, sa vision des choses. On a vu le film déjà, ça c'est important. On a été regarder, vérifier des trucs. Encore une fois, nous on n'est pas là pour prendre parti de quoi que ce soit. On est bien d'accord. On est une radio qui donnant la parole. D'accord. Donc, je veux surtout pas qu'on commence à nous dire qu'on est contre le documentaire ou qu'on est pour, d'ailleurs. Hein, on est bien d'accord avec ça. On est là pour permettre aux gens de donner leur vision des choses. Par exemple, il y a des choses qui sont pas dans le documentaire que l'on vit tous les jours à cause de cette pandémie, à cause des décisions qui ont été prises. S'il y a des choses que vous trouvez insupportables, par exemple, eh bien, on a le droit d'en parler tous ensemble. On a tout à fait le droit d'en parler. C'est votre émission, béni soit-il, sur Radio 1, l'émission où vous avez le droit de dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout en restant bien sûr tolérant, on est bien d'accord, et dans la bienveillance. Et aujourd'hui, on a le fameux film Hold Up, hein, qui fait beaucoup parler de lui, qui a déjà fait réagir pas mal de médias hein, métropolitains. Est-ce que vous avez entendu parler de ce film? Est-ce que vous l'avez vu? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous faites votre propre réflexion aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde? Alors moi, j'ai envie de vous poser également une question. Tiens, 40 43 61 00, le vaccin, on en parle de plus en plus. Il y a encore un nouveau laboratoire qui vient de dire que lui, il a réussi un vaccin qui marche à 94,5%, soit mieux que Pfizer qui était à 90%. C'est une course. Alors, il y a 6 mois de ça, on nous disait qu'il fallait au moins 2 ans pour mettre en place un vrai vaccin. Et là, on nous dit qu'en Angleterre, ils ont déjà commandé assez de vaccins pour commencer la vaccination dès le 1er décembre. Ils sont où les 2 ans? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que si demain la Polynésie française, qui fait partie hein, bien sûr du projet, si jamais l'État français commande des vaccins, eh bien on va nous proposer ces vaccins. Est-ce que toi tu vas effectivement te faire vacciner? Est-ce que tu es pour un vaccin contre le coronavirus si on nous le propose? Et maintenant si on nous l'impose, comment tu vas réagir? Il semblerait, et encore une fois ça c'est dans les bruits des médias sociaux, que pour pouvoir prendre l'avion on va nous forcer à être vacciné. On va pas donc rendre le vaccin obligatoire, mais si tu veux voyager, ça va être comme ça. Mais ça existe déjà, ça. Hein, faut surtout pas que les gens qui disent voilà, ça y est, ça c'est encore du complotisme. Hein, moi, je veux bien qu'on parle de complotisme quand il y a du complotisme, mais quand c'est pas le cas, faut être un petit peu objectif. Lorsque tu vas dans des pays d'Afrique, tu dois être vacciné contre le paludisme, contre la fièvre jaune, contre ça existe déjà ce genre de situation où on te dit tu peux prendre l'avion à condition d'être vacciné. Qu'est-ce que vous en pensez? Radio 1, bonjour.
Bonjour.
Oui, qui est à l'appareil?
Alors, je m'appelle Fidelia.
Oui, bonjour.
Bonjour. Et je voudrais réagir sur le documentaire.
Oui, vas-y, je t'en prie.
Alors, je ne l'ai pas vu, mais comme je suis dans l'audiovisuel, je voudrais quand même dire que un documentaire, ça s'oriente. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'en fait, si quelqu'un qui est interviewé, c'est une interview d'une demi-heure, je vais choisir une phrase d'une minute, de 3 minutes, et je vais la couper dans son ensemble. Mmh. Ça veut dire que je vais perdre toute une partie des informations qui va me permettre d'orienter l'information vers ce vers quoi j'ai envie d'aller.
Mais c'est ce qu'en font toutes les télévisions, hein, on est bien d'accord.
On est bien d'accord, oui. Mmh. Parce qu'il faut faire de l'audimat, hein, c'est quand même le propre de l'audiovisuel.
Bien sûr.
Et ensuite, dans mon choix même des personnes que je vais interviewer, des personnes qui normalement ont une assise sociale qui permet de dire que bon, ils sont sérieux, mais à l'inverse, je vais choisir de l'autre côté des gens que je peux facilement décrédibiliser.
Mmh.
Du côté opposé, de façon à toujours aller dans le sens de ce que j'ai envie de raconter.
D'accord.
Voilà, donc, c'est juste des méthodes de documentaire. Donc, je n'ai pas vu le film, donc je suis objective parce que je sais pas de quoi parle ce documentaire. Enfin, si je sais de quoi il parle, mais je ne l'ai pas vu.
Mmh.
Par contre, je sais comment on utilise l'information pour aller dans le sens dans lequel on a envie d'aller.
Alors, je suis très intéressé par ton intervention, parce que justement, les médias disent tous qu'il n'y a pas d'éléments contradictoires dans le film. C'est ça qui est dommage. En 2h43, ça va toujours dans le même sens et il n'y a pas de contradicteur. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui se fait en général, comme tu viens de le dire, où justement, non seulement il n'y a pas de contradicteur, mais quand il y en a un, on arrive toujours à choisir ce qu'il faut pour le décrédibiliser.
Bah là, dans ce cas-là, c'est pire encore. C'est-à-dire qu'il n'y a personne pour donner une autre vérité.
Mmh. Mais est-ce qu'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, aussi bien dans les médias que sur les réseaux sociaux, est-ce que la vérité ne devient pas de plus en plus compliquée pour toi, par exemple, qui est réalisatrice de documentaires? Est-ce que tu arrives pas à un moment donné où tu te dis, mais c'est pas possible, à quel moment on va avoir les vraies informations?
Alors moi, je ne suis pas un réalisatrice de documentaire. Je suis vraiment que scénariste. J'écris que les scénarios.
D'accord.
Du coup, je suis vraiment dans l'écriture et les techniques d'écriture. Maintenant, oui, ça devient très difficile d'avoir des informations. Il y a une société qui est connue auprès des journalistes pour faire le tri de l'information. Pour le reste, oui, ça reste toujours compliqué. Mais de toute façon, dans le documentaire, on ne cherche pas forcément toujours la vérité. On cherche à donner un point de vue sur quelque chose et à ouvrir les esprits.
D'accord.
Donc après, c'est aux téléspectateurs, j'ai envie de te dire, de chercher la vérité là-dedans aussi, quand on lui donne des pistes. Mmh. Et après, il faut se renseigner pour savoir ce qui est vrai et ce qui est faux. Le danger de ce genre de documentaire, c'est qu'il révèle tout comme si c'était une vérité et les gens se l'accaparent comme si tout avait été dit.
Alors, voilà. Ce qu'ils font justement dans ce genre de documentaire, c'est qu'ils ne donnent pas, ils ne donnent presque jamais d'ailleurs la réponse aux questions qui sont posées et aux problèmes posés. Ils laissent le spectateur trouver lui-même ses suggestions et aller chercher lui-même dans ce qu'il a entendu dire ses réponses. Et c'est ce qui fait qu'à la fin du film, le téléspectateur est persuadé d'avoir la vérité vraie.
Oui, parce qu'il a été manipulé, orienté. De toute façon, tout cinéma, tout film, tout visuel est de la manipulation d'émotions. Et je ne dis pas ça au sens péjoratif du terme, d'accord ?
On est bien d'accord.
Parce que, on manipule l'émotion pour faire plaisir, pour faire rire, mais on manipule l'émotion, c'est ça l'audiovisuel.
Alors, regarde par exemple, lorsque les médias, entre guillemets, officiels et sérieux, vont utiliser par exemple le fait que le ministre, monsieur Dousto Blasi, veut se retirer, veut prendre des distances avec ce film, parce qu'il a dit dans le film, on ne peut pas dire qu'il y a un problème avec l'hydroxychloroquine, il y a 2 milliards de personnes qui en ont pris et on n'en a jamais entendu parler. Ça, c'est ce qu'il a déclaré lorsqu'on l'a interviewé dans le film. Et au moment où il se rend compte par les médias qu'en fait, le documentaire est considéré par les médias, encore une fois, comme étant un documentaire complotiste, il dit « Je veux prendre mes distances, parce qu'on ne m'avait pas dit que ça allait être un film, un documentaire complotiste.
Oui. »
Alors, les médias officiels se servent de ça pour dire « Vous voyez, même les personnes qui sont intervenues dans ce documentaire décident de prendre des distances. » Néanmoins, le message a été dit, le message est quand même là.
Alors oui, mais certainement dans un ensemble. C'est-à-dire que oui.
Tu veux dire qu'il a été retiré d'un contexte, peut-être ?
Exactement.
Certainement même.
Oui, c'est-à-dire que oui, il a dû le dire, mais il a dû mettre des bémols à droite, à gauche, avant et après. Et ces bémols-là ont dû être retirés.
D'accord.
Et du coup, et ça arrive souvent dans le documentaire de dire non, mais c'est pas exactement ce que je voulais dire là. Mais oui, mais vous l'avez dit. Oui, mais après j'ai dit ça, ou avant j'ai dit ça, ou bah oui, mais nous on a pris les 3 minutes qui nous intéressaient.
Tout à fait.
Voilà.
Alors est-ce que tu es d'accord?
Je ne sais pas pour le défendre, hein, mais c'est juste que c'est comme ça qu'on fait dans le documentaire aussi, quoi.
Mais écoute, ton intervention est vraiment très pertinente pour la suite du débat, si débat il y a sur ce film. Je te remercie énormément.
Et bah bonne journée.
Merci beaucoup. Bah, à toi aussi, bisous magiques. Bon, ben voilà, une belle intervention aujourd'hui. Radio 1, bonjour.
Ouais, salut, Benny.
Oui.
Bonjour, moi je voulais embrasser Fidelia, c'est une copine.
Ah, bon, ben voilà, un gros bisou à Fidelia.
Ça c'est fait. Moi je vais juste. Tu as dit quelque chose de négatif.
Alors attends, ne quitte pas, s'il te plaît, ne quitte pas.
À vos côtés, à tout moment. Sur Radio 1.
Alors, Gildas. C'est bien Gildas, ouais. C'est l'appareil, hein,
ouais. Ouais, c'est ça, salut. Non, c'était juste pour te dire que tu as dit quelque chose d'inexact, à mon avis, hein, et après je demande contre vérification. Il n'y a pas de vaccin contre le paludisme.
Ah, peut-être, excuse-moi. Voilà,
c'est juste pour le temps, mais pour le peu, parce que c'est assez rigolo, parce que en fait, le médicament qu'on donne, c'est la quinine.
Oui.
La quinine, je crois que c'est quelque chose qui est comme la taurine.
Oui, c'est vrai, exactement. Voilà. Non, excuse-moi.
Il
n'y
a pas de vaccin pour le paludisme.
Excuse-moi.
C'est une erreur de ma part.
Je n'ai pas vérifié, mais je sais qu'il y a plein de maladies comme ça qui figurent dans la liste des maladies pour lesquelles il faut se protéger absolument avant de prendre l'avion.
Hein, ouais, c'est un préventif ou un curatif et c'est le même médicament.
Ok, mais il y a bien des vaccins. Il y a bien des vaccins obligatoires lorsqu'on va dans certains pays. On est bien d'accord avec ça ?
Il y a des vaccins obligatoires, bien sûr.
Ok, très bien.
Mais voilà, le paludisme, c'est pas un bon exemple. Après, moi, Hold Up, je l'ai vu. Je ne m'étendrai pas dessus. J'aime beaucoup l'intervention de Fidelia. Je pense qu'il y a déjà beaucoup de choses à dire à partir de ce que Fidelia a dit. Donc voilà.
Très bien, merci. Merci, Gildas. Alors, vos réactions par rapport à ce film et par rapport à ce vaccin, la course au vaccin, on peut en parler également. Hein. Ils ont un peu survolé le sujet. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est avoir vos opinions à vous, votre réflexion, ta réflexion à toi. Pas forcément te baser sur ce que disait le film, mais ce que tu vis tous les jours. Par exemple, est-ce que tu trouves qu'on est dans un monde normal lorsque, et là je vous parle d'un fait réel qui s'est avéré, c'était le week-end dernier, un ami a décidé de rentrer chez lui, il était 21h45, c'est-à-dire qu'il avait 15 minutes de retard sur le couvre-feu. D'accord. Il est sorti d'une soirée avec petite famille, manger tranquillement, en toute amitié, en tout respect, etc. Et là, il prend sa voiture et il dit, écoute, moi, je vais attendre juste 21h parce que là, ils sont tous comme des fous sur la route. Et vous l'avez vu hein, dans le reportage que nous a montré hier le journal télévisé. Je vais attendre parce que de toute façon, ils vont rien me faire. Et il arrive à 21h15, il se fait arrêter et il a pris l'équivalent de 85 000 francs d'amende. 85 000 francs d'amende, là, c'est plus qu'un excès de vitesse. C'est plus que beaucoup de gens qui ont volé, beaucoup de gens qui ont arnaqué d'autres personnes. On est aujourd'hui obligé, alors qu'on n'a rien fait de mal, on est bien d'accord, pour un peu, il n'est pas du tout, il n'est pas porteur du virus, d'accord ? Donc c'est quelqu'un de sain. Et pourtant, malgré que il serait capable de, on pourrait peut-être dire, attends, écoutez, on va te prendre, on va te faire une prise de sang, on va te faire un test pour savoir si t'as le Covid ou pas, pour te dire, voilà, t'avais pas à être là, t'es dangereux, tu risques la vie d'autres personnes. Là, en aucun cas, il risque la vie de quelqu'un, mais pourtant, on va quand même lui mettre une amende de 85 000 francs. Est-ce que ça, pour vous, c'est, voilà, on vit avec ça, c'est comme ça. On doit se protéger, c'est la collectivité, on vit en société, on doit tous suivre les mêmes règles. Et ça, c'est normal qu'en 2020, eh bien, si tu dépasses de 15 minutes un couvre-feu, c'est comme un prisonnier qui a un bracelet à la cheville et qui doit revenir à telle heure dormir à la maison d'arrêt. Eh bien, nous, c'est pareil, on doit rentrer à 21h, c'est comme ça. Voilà. Comment tu réagis à ça ? Tu vois, là, on parle plus du film, on parle plus de. C'est quoi ta réaction ? Est-ce que tu trouves que c'est normal ? Et c'est tout à fait possible. Hein, moi, je peux trouver ça tout à fait normal. Hein. Tout le monde est sous la même loi. Ou non, là, on est en train de jouer avec nos libertés, comme quand on nous interdit de vendre de l'alcool ou d'acheter de l'alcool, quand on nous interdit de boire du vin à table, parce qu'il y a. À chaque fois, c'est parce qu'il y a d'autres personnes qui n'obéissent pas, parce qu'il y a d'autres personnes qui sont porteurs du virus, parce qu'il y a d'autres personnes. Alors, tout le monde doit se plier à cette règle. Qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'à un moment donné, on ne doit pas demander à... Attendez, avant que je paye, est-ce qu'on peut vérifier si effectivement j'ai été dangereux là, depuis 15 minutes ? Est-ce que je suis porteur de quoi que ce soit ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aller un petit peu, je sais pas moi, arrondir un peu les angles ? T'en penses quoi ? 40 43 61 00. C'est la rétrospective du week-end aujourd'hui. Tous les sujets dont vous avez parlé en famille, avec les copains, les copines, tout ce que vous avez pu voir à la télé ou regarder sur les réseaux sociaux, vous pouvez bien sûr intervenir dès maintenant au 40 43 61 00. Tu peux dire ce que tu en penses. Radio 1, bonjour.
Oui, bonjour, Jacques Albaril.
Oui, Jacques, il faut baisser ta radio absolument, s'il te plaît.
Yes.
Merci, vas-y, Jacques.
Bon, moi je reviens sur le film, sur le film, si on veut, bon j'ai vu, j'en pense ce que j'en pense, j'en laisse ce que j'en laisse, tout le monde doit faire pareil, parce que franchement, ce serait un film propagandiste sur l'inverse, ça serait exactement pareil, donc ça, faut laisser de côté, parce que je pense que pas grand monde sait ce qu'il en est exactement de ce truc, voilà, là-dessus, on laisse ça de côté.
Est-ce que tu penses que c'est dangereux ? Est-ce que tu trouves que c'est quelque chose qui peut être dangereux ?
Bien sûr que c'est dangereux. Les films de propagande, qu'ils soient nazis, qu'ils soient communistes, qu'ils soient machin, c'est toujours dangereux.
D'accord, parce que tout dépend de celui qui le regarde et avec quel état d'esprit il le regarde.
Voilà, d'accord. C'est comme quand monsieur le président des États-Unis dit buvez de l'eau de Javel, tout le monde en rigole, mais il y a quand même des gens qui sont capables de le faire. Bon, voilà quoi, point ligne, on arrête là. Moi, je reviens à autre chose sur le vaccin. Le vaccin Pfizer nous dit, ouais, j'ai un vaccin à 90%. Le jour même, monsieur le président directeur général de chez Pfizer revend pour 5 600 000 dollars d'actions. Alors là, on peut se poser la question encore. Hein.
Ah oui, mais là, on va te traiter de complotiste, là.
Non, mais on peut se poser la question. Le mec, il annonce qu'il a un vaccin deux jours après l'annonce de l'élection de Biden et il vend pour 5 600 000 dollars d'actions parce que les actions ont augmenté et la bourse est en augmentation de 5% dans le monde entier. Ouais. Donc là, on se pose aussi la question. Bon, voilà.
Ça, la bourse, en plus, la grosse question, c'est tout le monde dit que l'économie est en train de se casser la gueule et pourtant la bourse est en train de décoller.
Oui, mais j'ai entendu dire aussi un économiste qui disait que si on en arrivait là avec l'économie, c'est pas par rapport seulement au Covid, c'est par rapport à nous-mêmes, par rapport à ce qu'on a fait avec le climat, par rapport à ce qu'on fait avec l'économie de tous les jours en bafouant les lois de la nature, en bafouant tout ça. Donc, il y a toujours quelque chose qui vient derrière pour nous mettre en doute de tout. Donc, le doute, il est là. Le doute bénéficie à l'accusé, n'est-ce pas? Et voilà, quoi. On en est là.
Toujours.
On en est toujours là. Et la troisième des choses, je veux dire, ce matin, j'apprends que Moderna, lui, a un vaccin à 94 ou 95%.
94,5, s'il te plaît. Sois précis, Gilles.
Ouais, non, mais d'accord, mais bon. Alors, demain, qui c'est qui va venir? Les Russes vont dire qu'ils ont un vaccin à 103% de sûr. Donc, non, je pense pas. On fabrique un vaccin en 6 mois, en 8 mois, alors que normalement un vaccin doit se faire en 4-5 ans, avec toutes les précautions qui sont dues à la santé humaine.
Ouais, mais encore une fois, Gilles, c'est l'OMS elle-même, c'est les scientifiques qui sont agréés par l'OMS et par tous les ordres de médecins qui nous l'avaient dit. On nous avait dit qu'il faut minimum 2 ans, grand minimum 2 ans pour sortir un vaccin qui tienne la route. Et comment tu expliques qu'en Angleterre, on est en train de déjà se préparer à vacciner à partir du 1er décembre?
Bah ça, c'est ce qu'ils disent.
Ça, je l'ai lu dans lemonde.fr. Là. J'ai pas été regarder ça sur les réseaux sociaux.
Ouais, Monde. Tu vas croire Le Monde, tu vas croire Le Figaro, tu vas croire tout le monde. Il faut y avoir et manger dans tout ce que les médias disent. Excuse-moi pour Radio 1, mais bon, voilà quoi. Hein.
Merci Gilles d'intervenir régulièrement dans l'émission. Je te salue.
Le problème, quand on voit maintenant que Boris Johnson, on le confine. Parce qu'il a été cas contact, alors que Boris Johnson a été...
Il a eu le Covid, on le sait tous.
Pourquoi on le reconfine, ce mec? Apparemment, d'après ce qu'ils disent, il ne doit plus l'avoir.
Alors
On ne sait pas. On sait, donc, je sais bien ce que je te dis, personne ne sait rien.
Exactement.
Donc, on ne sait rien.
C'est comme le vaccin à 90%, ils sont que à la phase 3. Alors moi, j'y connais rien non plus. Voilà. Il resterait deux phases, la phase 2 et la phase 1. On ne sait pas combien de temps dure l'immunité, mais on est prêt à dire qu'il va pouvoir sauver des vies.
Et puis on ne sait pas quels seront les problèmes qu'il peut y avoir après avec ce vaccin s'il est mal fait. Voilà. Hein, c'est au même cas que l'hydrochloroquine, on dit l'armée française en a acheté. Oui, pourquoi l'armée française a acheté des stocks? Parce qu'elle a eu peur qu'il n'y ait plus de stocks pour ces militaires qui partent en OPEX et qui en ont besoin pour d'autres maladies.
Merci beaucoup, Gilles.
Voilà, bonne journée.
À toi aussi, bonne journée, bonne semaine. Alors aujourd'hui, vos réactions, bien sûr, au 40 43 61 00. On parle du vaccin, la course au vaccin, 90% pour Pfizer, 94,5% pour notre labo. Combien, jusqu'où on va aller? Le retour de l'hydroxychloroquine, oui, la liberté de prescrire de l'hydroxychloroquine à Tahiti, eh bien oui, c'est vrai. Mais pourquoi alors, si c'est dangereux? On se pose quand même des questions, là. Et puis, nous avons Steve au téléphone qui veut réagir sur le film Hold Up. C'est un film de 2h43, qui est considéré par tous les médias comme étant le film complotiste au sujet de tout ce qui se passe dans le monde avec la gestion de la Covid-19, mais également la nanochirurgie avec le vaccin qui pourrait être utilisé pour nous implanter une puce, etc., etc. Qu'est-ce que tu en penses, Steve?
Ouais, Yolanda.
Ça va bien?
Oui, ça va. Ça. Alors, j'ai vu le film, je l'ai regardé, c'est vrai qu'il dure pendant plus de 2 heures, là.
Ouais.
Comme la scénariste vient de parler, là, juste avant, là, elle dit que, bon, comme dans tout documentaire, on prend toujours quelque chose qui va dans le sens de la personne qui voulait faire ce documentaire.
Je suis
tout à fait d'accord dans ce sens-là, mais c'est comme dans toute chose.
Bien sûr.
Donc, comme elle le dit dans ce cas-là, ben, je pense que ce documentaire-là n'a été fait que pour amuser la galerie, alors.
Donc. D'accord. Donc toi, tu penses que c'est ce que tu penses?
Ben, c'est celle qui vient de parler, quoi. C'est vrai. Donc, si aujourd'hui penser autrement que ce que les médias, on va dire lambda, pensent aujourd'hui, c'est soit être fou ou soit être complotiste. Dans ce cas-là, pourquoi ont-ils choisi des gens respectables? Pourquoi ont-ils choisi des médecins qui ont du terrain quand même? On ne parle pas de n'importe qui quand même. Ce sont des gens qui, depuis le début de la crise, parlent des choses qui ne fonctionnent pas, qui sont tellement contradictoires dans les décisions du gouvernement. Et aujourd'hui, tous les médias, en sachant, c'est un peu comme aux États-Unis. 90% des médias sont contrôlés par un groupe politique. Donc, ce qui fait que le reste n'existe pas. Donc, comme on dit, quand on fait du lavage de cerveau, on dit qu'un mensonge, à force de le répéter, devient une vérité. Ben voilà, tout le monde le croit maintenant aujourd'hui. Donc ça veut dire que voilà, ce documentaire-là n'est rien d'autre que du complot, quoi. Chose qui est, que je trouve complètement aberrant de dire une chose pareille.
Alors,
quand on sait que ce sont ces mêmes présentateurs de télévision qui, au début de la crise, disaient des choses, et après, au bout de tant de mois, je reviens sur ce qu'ils ont dit et ils commencent à dire ouais, il faut faire ceci, faire cela. Donc, où va-t-on dans ce cas-là?
Alors, ce que tu es en train de me dire, parce que toi, tu t'es tapé le film, hein, 2h43, je me le suis fait deux fois, moi, pour pouvoir préparer l'émission.
Moi, trois fois.
La chose, c'est que ce film-là, on arrive à prouver, hein, ça c'est clair, qu'il y a eu des contre-vérités. Mais des contre-vérités, on en trouve aussi dans les médias lambda, on est bien d'accord avec ça. Okay. Mmh. Donc, toi, ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas parce qu'on a trouvé des contre-vérités dans le film qu'il faut dire que tout le film est un amas de mensonges et de faussetés. C'est bien ça? Parce qu'il y a des gens comme le docteur Perron, par exemple, que tout le monde connaît aujourd'hui. Il y a le docteur Perron qui réagit, mais il y a aussi des ministres, des députés qui parlent. Il y a une députée qui explique sa rencontre avec M. Véran, le ministre de la Santé, qui est sorti de ses gants lorsqu'elle a juste voulu le contredire. Ça, c'est des faits qui existent. C'est des réalités.
Oui. Lorsque tu reprends le documentaire, même lorsqu'on reprend tout ce qui se passe depuis le début de l'année, là, quand tu vois des ministres qui osent dire que le port du masque, c'est complètement insensé, ça ne sert à rien, tout a été préparé, quoi qu'il en soit. Quand on voit l'ex-ministre de la Santé qui disait, avant de quitter son mandat, qui disait que tout a été bien fait, que son remplaçant, tout va les choses bien fait, et quelques temps après, se dit, non, elle n'était pas au courant. Ouais, on se pose des questions, quoi. Donc, après, voilà. Donc, si on fait un documentaire pour démontrer qu'il y a des failles dans le
système
d'un gouvernement, dans le système, on prend cela pour un complot, c'est un peu beaucoup, comme on dit.
Alors, est-ce que tu as l'impression que le droit, la liberté d'expression est également atteinte, là, dans ces moments-là?
Ah, oui. Ah ben de plus en plus. J'ai l'impression qu'on est en train de plus en plus de museler la liberté d'expression, quoi. Ben, t'as qu'à voir aux États-Unis. Les élections ne sont même pas encore finies, que tout le monde, la plupart des médias disent que Biden a gagné. Mm-hmm. Alors qu'il y a des règles à respecter aux États-Unis, c'est la Constitution qui décide, et non pas les médias, quoi. Mm-hmm. Avec tout ce qui ne va pas. Mm-hmm. Bon, c'est un peu comme tout ce qui se passe actuellement, quoi. On dit des choses, et après quelques temps, on revient dessus. Mais comme on a dit, ils n'ont pas voulu dire cela, mais quoi qu'il en soit, il faut respecter ce qu'ils disent maintenant. Donc voilà, donc on prend les gens pour des moutons, et maintenant... Voilà. Lorsqu'on commence à parler d'autre chose, on te traite de complotiste ou de fou. Voilà,
alors,
tout simplement, quoi.
Il y a quelque chose que j'ai toujours dit depuis le début de cette crise dans mon émission, donc j'ai pas attendu ce documentaire, hein. C'est qu'il y a quelque chose qu'on peut pas enlever, c'est que c'est une situation inédite, ok, et que on peut comprendre que des humains puissent faire des erreurs. Le souci aujourd'hui qu'a la population, c'est de dire que ils ont fait des erreurs, mais à aucun moment ils vont l'avouer, quoi. C'est ça qui fait du mal. Et on va venir nous dire effectivement que lorsqu'on est politicien, on ne doit pas avouer ses erreurs.
Ah ben ça, je suis tout à fait persuadé, quoi. Mm-hmm. Même le ministre actuel de la Santé, on montre ses gaffes, on reprend depuis le début de l'année, on montre toutes les bêtises qu'il a dit, ce mec-là, même le nouveau, là, depuis qu'il a pris ses fonctions,
Véran.
On montre toutes les bêtises, le père Véran, quoi. Mm. C'est pas possible. Et comme il dit là, cette scénariste-là, il suffit qu'on prenne deux cas concrets pour contredire, pour pouvoir faire taire tout le monde. Il prend le cas d'une personne qui avait 35 ans, 28 ans et l'autre 45 ans. Ils étaient obèses, les mecs étaient déjà malades. Ça y est, même s'ils n'étaient pas malades, ils ont été atteints. On va prendre deux cas concrets pour bien marquer, pour bien dire comme quoi, vous voyez, il faut que tout le monde soit solidaire et il faut que tout le monde se confine. Mais à côté de ça, on va laisser crever les gens, les entreprises vont être en faillite, l'économie va être en faillite, et je me demandais comment est-ce que le gouvernement va faire pour payer tous ces gens-là. Et comment est-ce que tous les gens qui ont contacté des emprunts aujourd'hui vont le faire, pour rembourser tout ça. Alors, en plus, on peut pas faire du sport. Alors, il n'y a pas mieux que le sport pour combattre cette maladie. Mmh. Et bien voilà, non, tout est interdit. Même les salles de sport maintenant, on va les fermer. Où va-t-on? Voilà. Ouais, je trouve que c'est bien dommage qu'on en soit arrivé là. Et voilà, c'est dommage que notre président se soumette à ces décisions-là, qu'il devrait peut-être penser à sa population polynésienne avant tout, quoi.
Alors c'est vrai que ça devient très très compliqué, Steve, parce qu'on ne peut plus vraiment dire ce qu'on a envie de dire sans tout de suite avoir des jugements de droite et de gauche. Ok. Alors, on a l'impression qu'il y a plusieurs niveaux de population. Tu as les gens lambda, hein, monsieur tout le monde. Après, tu as des professeurs. Parce que moi, ce que j'ai trouvé quand même assez incroyable, c'est qu'on puisse faire passer des professeurs qui ont 40 ans d'expérience. J'ai pas envie de donner de nom là, parce qu'on va me dire, ah, ça y est, il est complotiste. Sans être complotiste, hein, je donne aucun nom. Comment on explique qu'on arrive à faire passer des mecs qui ont 40 ans d'expérience, ils sont pas arrivés l'année dernière avec le Covid, comment on arrive à mettre leur parole en jeu, et surtout mettre cette parole en jeu par des petits animateurs de télévision, des gens qui n'ont même pas 10% de leur degré d'études et d'expérience. Moi, ça m'explose. Moi, je sais pas comment tu réagis.
Eh ben, tu pêches à convaincu, quoi. Comment est-ce qu'on peut faire ça? Comment est-ce qu'on peut laisser des médecins qui, même ici au niveau local, qui arrive à dire que voilà, ils disent n'importe quoi, que ce sont des gens qui ont même des tests. C'est comme si tu allais dire à un général de guerre, bon, ce qu'il a fait, c'est du rien du tout, tu fais n'importe quoi.
Ouais, après,
ce sont des gens qui ont du terrain, qui font des expériences. Ils ne parlent pas que, c'est pas comme on dit, c'est pas que du chalala. Ils ont des statistiques, ils font des expériences, ils ont, et d'autant plus que si on prend même si tu peux le nommer, on fait le professeur Laouz, il a le taux de mortalité le plus bas de toute la France. Je suis désolé, il a monté par ces chiffres-là. Et quand on voit des reporters, des présentateurs de télévision qui osent le mettre en cause et qui osent le traiter de fou, hein, ou en essayant de lui faire dire
charlatan,
des choses qu'il n'a pas dit. Voilà. Donc moi, je trouve ça déplacé, je trouve vraiment déplacé. Et j'espère qu'un jour, la vérité se fera, cette maladie-là. Parce que... si on revient à M. Le Pen dans les années 80, quand il a parlé de confiner toutes les personnes qui avaient contacté le sida, on l'a traité de nazi. Et aujourd'hui, pour une grippe comme ça, c'est tout. On a mis le monde entier à genoux. C'est quand même inouï, quoi. Là, il faut se poser la question, là. Ah, franchement, là, je dis bravo pour une maladie. Et quand on est malade, c'est simplement que du Doliprane quand tu es malade. Tu te mets un peu au frais, mais tu prends que du Doliprane. Il n'y a rien d'autre. Et en plus, on ne peut pas prendre l'hydroxychloroquine parce qu'apparemment, c'est interdit.
Bah après, tu vois, moi, je suis d'accord, hein, quand on regarde toutes les erreurs dans un documentaire, qu'on dise, moi, je suis pour ça, parce que j'aime la vérité. Mais... il y a des choses qui ont été dites dans le film qui sont quand même aberrantes. C'est lorsque tu vois qu'on a demandé à nos matayatos de rester enfermés dans les EHPAD, qui n'avaient même pas le droit d'aller dans le jardin. Ça, c'est pas inventé, ça, c'est pas complotiste. C'est la réalité des choses. On a interdit à des personnes âgées d'avoir des visites. Et il y a des gens, d'ailleurs, on a des artistes, hein, comme Elie Semoun, qui portent plainte contre le gouvernement. Ça, c'est aussi une vérité. Et c'était pas dans le film, d'accord? Donc venez pas me dire que je suis en train de pousser le film complotiste. C'est pas du tout dans mon idée. Hein, il a porté plainte parce que son père s'est laissé mourir de dépression parce qu'il était abandonné. Il s'est senti abandonné dans l'EHPAD. Il avait pas le droit de visite. Il avait pas le droit de sortir dans les jardins.
La plupart des Polynésiens me disent maintenant ça, c'est la maladie de la peur. On dit ça. Et beaucoup de gens meurent à cause de ça. Ben voilà, ils ont peur, ils ont tellement peur de contaminer, t'as qu'à voir la publicité. Même les enfants, on montre une publicité qui disent aux enfants, ben attention, si tu vas faire la bise à ta grand-mère, ben tu risques de la tuer, quoi. Donc c'est moi, je trouve la publicité qu'on fait actuellement là, quand on commente à la télé, je trouve que c'est choquant, parce qu'on peut pas faire ça. Ben, ça veut dire qu'on est en train de dire aux enfants, attention, tu peux même tuer ta grand-mère, quoi, si jamais tu étais malade, quoi. Mais où va-t-on? On dit que les enfants ne sont pas porteurs de maladies, mais maintenant, mais c'est pas grave quand même. Ok, faut rester à distance maintenant. Mais dans ce cas-là, on a tous autant mieux se balader tous en scaphandre pendant qu'on y est là. Voilà.
Merci beaucoup.
De rien.
Bonne journée à toi, Steve.
Allez, bonne journée, Nana.
Allez, toutes vos réactions aujourd'hui, 40 43 61 00, n'hésitez surtout pas. Je voudrais revenir. Oui, il faut baisser ta radio, s'il te plaît. Qui est à l'appareil?
Oui, bonjour, c'est Mike.
Mike, ne quitte pas, s'il te plaît. J'aimerais rectifier, la personne qui s'est fait arrêter, qui a payé près de 85 000 francs d'amende, serait un récidive. Donc, c'était la deuxième fois qu'il se faisait arrêter après l'heure du couvre-feu à 9h15. Si jamais il récidive une nouvelle fois, on parle ici de 3 750 euros. 3 750 euros au bout de la troisième fois. Voilà, j'en parlais tout à l'heure. Est-ce que comment vous jugez cela, le fait de devoir payer aussi cher lorsqu'on a fait à peine, enfin on a fait aucun mal, quoi. On a tué personne, on a blessé personne. Est-ce que vous pensez que c'est normal qu'on doit faire comme tout le monde? C'est la communauté, on est tous ensemble. Est-ce qu'on doit payer 400 000 balles d'amende lorsqu'on dépasse de 15 minutes un couvre-feu alors qu'on a fait de mal à personne? Qu'est-ce que tu en penses, Radio 1 est là pour ça. Mike, bonjour, comment vas-tu?
Bonjour, ça va très bien et toi, Denis?
Écoute, moi ça va. Je fais aller avec le soleil, le beau temps et des auditeurs adorables comme vous. Moi je dis que tout va bien. Qu'est-ce que tu voulais dire, Mike? Dis-moi, est-ce que tu as vu le film?
Non, pas du tout. Voilà, je voulais commencer par ça. J'ai pas du tout vu le film.
D'accord.
Ça m'intéresse pas. J'en ai entendu parler. Ça m'intéresse pas personnellement.
D'accord.
Mais par contre, le gouvernement français n'a pas toujours été honnête. C'est pas de maintenant, ça fait longtemps. Même avec les essais nucléaires de Mauroy, là. Ils ne veulent pas vraiment indemniser les victimes, quoi. Tu vois, ça fait des années que. Voilà, c'est prouvé que. Parce qu'on a été touché par le cancer à cause des décès. Et on ne veut toujours pas reconnaître totalement, quoi. C'est toute une démarche de papa, c'est compliqué pour les familles, bref. Rien que sur ça, déjà.
Alors, c'est pas honnête, quoi. Tu te rappelles qu'à l'époque de l'accident de Tchernobyl, on avait réussi quand même à faire croire à une grosse partie de la population que le nuage s'était arrêté juste à la frontière.
C'est ça, exact. Tout à fait. Tu vois, partout c'est pareil, dans n'importe quel pays, il y a toujours des complots par rapport vis-à-vis de la population, quoi.
Alors, quand il y a des complots des gouvernements, il ne faut surtout pas en parler, sinon c'est toi qui es complotiste.
C'est ça, tout à fait. Donc, ouais. Moi, pourquoi je ne regarde pas cet intérêt-là? Parce que pour moi, le plus important, enfin, déjà, personnellement, j'ai pas été touché par le Covid.
Ouais.
Aucun membre de ma famille n'a été tué ni malade. J'ai pas perdu mon job. Merci Seigneur, quoi. Donc après, les gens ont besoin de réponses. Et que ce soit ici ou n'importe où, hein. Les personnes surtout qui ont été touchées, qui ont perdu un être cher ou alors qui ont perdu leur travail, ils ont besoin pas, quoi.
Ouais.
Alors, ils ont de la haine, tu vois. Et le fait de savoir qu'il y a possibilité qu'il y ait un complot, quoi. Donc c'est normal pour eux qu'ils tournent vers ce genre de documents, quoi. Documentaires, pardon.
Ouais.
Et moi, je pense que le plus important, après tout ça, il y en a beaucoup qui ont perdu leur travail. Je connais beaucoup, j'ai beaucoup d'amis qui ont perdu leur job, là. C'est vraiment difficile. Parfois, ils étaient tout seuls à travailler, leur femme ne travaillait pas, ou leur mari, tu vois. Et donc là, ils galèrent. Donc, pour eux, le plus important, c'est vraiment pas de raconter les médias. Pour eux, c'est de nourrir leurs enfants, tu vois.
Exact.
C'est pas le fait de regarder ces documentaires qui va faire que leur vie va avancer.
Alors, tout à fait.
Ils ont les pieds sur terre, et puis ils essaient de s'en sortir, quoi. De vendre la nourriture au bord des routes, de trouver autre chose, tu vois. C'est le plus important pour eux. Je pense qu'il vaut mieux se concentrer sur ce genre de choses.
Ouais.
Il va faire que voilà, c'est ton enfant va dormir avec le ventre plein ce soir. Et après, peu importe, jamais il y a eu des mensonges ou la vérité, mais pour moi, je pense qu'il y a une part de vérité, une part de mensonge quand même par rapport au gouvernement. Le truc, c'est qu'ils disent jamais qu'ils ont eu tort, quoi, tu vois. Ils disent pas, désolé, on a eu tort sur certains points, comme les ports du Nord, c'est autre chose, tu vois. Et donc, ils s'enfoncent de plus en plus. Bref. Mais ça fait tout un caca. Donc le plus important, je pense, que c'est ça. Nourrir ses enfants, nourrir sa famille. Voilà, quoi. C'est le plus important.
Merci beaucoup, Mike, de ton intervention.
Voilà, il y a vraiment plus important que ça, parce que ça, c'est la réalité. Il n'y a pas de mensonge, c'est la réalité.
Tout à fait.
Voilà.
Merci encore. Bonne journée à toi.
Merci beaucoup. Allez, Nana.
Nana, bisous magiques. Voilà, vos réactions 40 43 61 00. Vous écoutez Radio 1, c'est la deuxième heure avec vous au 40 43 61. Toutes vos réactions, bien sûr, hein, au sujet de ce documentaire, mais également au sujet de l'actualité, la liberté de represcrire de l'hydrochloroxine dans les villes. À Tahiti, c'est le cas. Le fameux vaccin, on est passé de 90% à 84,5%. Un nouveau laboratoire propose un vaccin encore plus puissant. On nous disait il y a quelques mois qu'il fallait au moins 2 ans pour faire un vaccin et on est prêt à nous vacciner, en tout cas en Angleterre, dès le 1er décembre. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce que tu es prêt, toi, à te faire vacciner? Radio 1, bonjour.
Bonjour.
Oui, qui est à l'appareil?
C'est Jacques.
Jacques, bonjour Jacques.
Alors, je voulais intervenir par rapport au documentaire.
Alors, Jacques, tu es en direct déjà avec moi. Je te demande de baisser complètement ta radio pour qu'on puisse bien t'entendre et tu peux maintenant t'exprimer. Vas-y, Jacques, tu es le bienvenu sur Radio 1.
D'accord. Alors, pour moi, bon, le documentaire est à prendre quand même un peu au conditionnel parce qu'il y a du vrai et du faux là-dedans.
D'accord.
Mais pour moi, le plus gros mensonge, c'est par rapport aux médicaments du docteur Raoult.
D'accord.
Il est qu'il arrive à. Il a le taux de mortalité le plus bas. Et jusqu'à aujourd'hui, on nous interdit encore de pouvoir l'avoir pour se soigner. C'est quelque chose d'aberrant que je ne comprends pas. Est-ce que les gouvernements sont derrière? Est-ce que les sociétés pharmaceutiques sont derrière parce qu'ils veulent proposer quelque chose de plus cher? C'est un gros point d'interrogation.
D'accord. Donc, pour toi, ça, c'est ce qu'il y a de pire. C'est le fait de nous interdire, d'interdire les pharmacies de pouvoir délivrer l'hydroxychloroquine. Tu le sais, à Tahiti, c'est possible depuis la semaine dernière. D'accord ?
Oui, oui.
On a à nouveau cette liberté. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant ? Un médicament qui a été distribué, et ça, c'est le ministre Dussoblasi qui l'a déclaré depuis des années. Il y a plus de 2 milliards de personnes qui l'ont pris. On n'en a jamais entendu parler. Il est distribué en Afrique, dans des magasins, dans des petites épiceries. D'accord ? Et l'idée, c'est... qu'est-ce qui se passe ? Les anti-complotistes, parce que voilà, il y en a qui sont complotistes et d'autres non, disent, mais de toute façon, le docteur Théron, lorsqu'il dit qu'il a soigné 140 personnes, c'est du n'importe quoi. Ça se trouve, il aurait donné une cuillère d'eau chaude le matin, le midi, le soir, ils auraient été sauvés quand même. Ouais, mais au moins, ce qu'on peut dire, c'est que les 140 personnes ne sont pas mortes à cause de l'hydroxychloroquine.
Exactement. Donc, je prendrais même un autre exemple.
Oui.
Moi, en étant bien malade, j'étais plusieurs fois à l'hôpital.
Oui.
Et lorsque tu voyais le protocole qu'ils avaient pour la douleur, était du Doliprane, tout ça aberrant. Déjà, alors, pour un cancer, on te donne du Doliprane pour calmer la douleur, on te donne de la morphine, on te donne ce protocole. Et pour une maladie comme le Covid, on te dit que c'est interdit le médicament du docteur Raoult, mais on te dit qu'il faut prendre du Doliprane aussi à côté. Franchement, ça se posait beaucoup de questions.
Effectivement. Surtout que ce n'est pas le médicament du docteur Raoult, c'est un médicament qu'on utilise depuis des années en France. Il y a eu 2 milliards de personnes qui l'ont utilisé quand même.
Ben, déjà, les personnels navigants, ils utilisent cela par rapport à des destinations où ils seront amenés à voyager, ainsi que les militaires. Bon, ça n'a jamais tué personne.
On a plusieurs auditeurs qui en ont pris pendant des années lorsqu'ils étaient en Afrique et qui nous ont témoigné effectivement qu'ils n'ont jamais eu de problème avec ça. Merci beaucoup de ton appel en tout cas.
Je voulais juste intervenir par rapport à l'amende que tu parlais.
Vas-y Jacques.
Lorsque on dépasse la personne, bon, elle est récidiviste. La grosse question que je me pose, si toutes les personnes qui se trouvent au bord de la route qui sont rassemblées, qui sont plus de 6 à 10 personnes avec des bouteilles d'alcool et que tu vois les policiers passer à côté... Les saluer, je trouve aberrant de mettre une amende à quelqu'un qui a dépassé de 15 minutes de couvre-feu, alors que ces personnes-là, que eux saluent parce que sont des amis, on les laisse au bord de la route boire de l'alcool. Où est-ce qu'on va? La loi, elle est pour qui alors?
Bah, surtout le fait de devoir payer aussi cher, d'avoir rien fait à part dépasser un couvre-feu de quelques minutes, quoi.
Hein? Je prendrai même un autre exemple. Samedi dernier, au PK18 à la plage, il y avait un groupe de personnes qui étaient en train de boire. La gendarmerie est intervenue juste pour leur dire d'arrêter de boire. Et moi, la question, les deux groupes comme ça étaient interdits, c'est des amendes directes et de les chasser, mais non. Ils sont juste intervenus pour dire qu'il faut arrêter de boire, point barre. Tout le monde, tous les Polynésiens et autres personnes qui étaient là, se poser la question, mais d'abord, l'alcool est interdit sur le site, et le groupement s'est interdit suite au mais là, tu les vois intervenir, mais sans donner de contravention.
Aïe, on est là pour en parler. Merci beaucoup de ton appel, Jacques.
Voilà, bonne journée.
Bonne journée, bisous magiques. Et bien voilà, 40 43 61 00. Toutes vos réactions aujourd'hui à cette actualité, c'est la rétrospective du week-end. Je rappelle que tout ce que vous dites en ce moment est enregistré. Je vais faire un podcast avec tout ça. Ça veut dire que je vais enlever la publicité. La musique, il n'y en a pas eu pour l'instant. Vous êtes tellement aussi, il y a peut-être eu un titre. Vous êtes tellement nombreux à téléphoner aujourd'hui et à réagir à tout ce qui se passe en ce moment avec ce film, Hold Up, mais surtout avec les réactions des médias. Tout le monde est en train de réagir autour de ce phénomène. Et puis il y a l'actualité, le vaccin, ce fameux vaccin qu'on est en train on va certainement nous l'imposer en nous disant qu'on pourra plus prendre l'avion si on n'est pas vacciné. C'est dans les couloirs là, on est en train d'en entendre parler. Qu'est-ce que tu penses de cela? Est-ce que toi, demain, tu vas te faire vacciner sans problème pour le Covid, alors qu'on n'a pas respecté les fameuses 2 années dont on nous parlait, hein, encore une fois. C'est les gouvernements, c'est les scientifiques qui nous disaient qu'il faut au moins 2 ans minimum pour pouvoir faire un bon vaccin, quelque chose qui soit vraiment efficace. Après, il y a le nombre de doses qu'on est capable de faire, en sachant qu'il faut faire un rappel. Bref, tout ça là. Est-ce que tu es d'accord avec ce qui nous arrive? Qu'est-ce que tu penses de l'hydroxychloroquine? Est-ce que tu te dis que c'est quand même incroyable qu'aujourd'hui on nous redonne la liberté de le prescrire aussi facilement, alors qu'il y a eu 52 morts et qu'on est passé à travers sans utiliser l'hydroxychloroquine, et encore, hein, au bon moment? Parce que depuis le début, le protocole, Raoul, excusez-moi, on va le citer, c'était quand même de le donner au premier symptôme, au premier moment de la maladie, pas une fois que les gens sont hospitalisés et en réanimation. Hein? Alors, il y a un côté où on disait non, il ne faut pas l'écouter, mais de l'autre côté, on dit bon, ok, on va quand même faire l'essai quand les gens seront au stade critique. Mais non, si on te dit qu'il faut que tu mettes de l'huile dans ta voiture avant de faire tourner le moteur, hein, pour permettre aux pistons et aux cylindres de faire l'amour ensemble dans l'huile, ne dis pas non, c'est pas bon l'huile pour le moteur. Non, je te dis que c'est pas bon. On va rouler 600 km et au bout de 600 km, on va mettre de l'huile, on va voir si ça va réparer les choses. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un exemple que je donne, hein, puis après, je ne suis pas mécanicien, mais vous voyez, quand tu es un mécano, quand tu es un ingénieur en mécanique qui te dit « mets l'huile avant de faire tourner le moteur parce que tu sais que tu vas le faire tourner, là, ça va commencer, c'est maintenant que tu dois mettre l'huile pour que tu puisses rouler 300 000 km », ne dis pas « non, j'aime pas ton huile ». Mais je vais quand même l'essayer, mais une fois que j'aurai fait une bonne distance. Il n'y a pas un moment là où tu es en train de chercher un peu la merde? Enfin, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Radio 1, bonjour. Radio 1, bonjour.
Eh, hey, bonjour.
Oui, Fini. Qui est à l'appareil?
Confini.
Comment vas-tu?
Ça va. J'ai regardé le film justement ce week-end, Hold Up, qui est sur YouTube.
Oui, tout à fait.
J'en ai posté même les liens à des amis par email.
Ok.
Ça a duré 2 heures, c'est long.
2h43, ouais.
Ah oui, c'est très très long. Parce que je me suis dit, il faut le regarder parce que le gouvernement, dans 15 jours, ils vont l'enlever de YouTube.
Ouais.
Alors, il faut aller maintenant. Sinon, après, nous, on ne pourra plus avoir accès. Tu sais, des fois, des vidéos comme ça, quand c'est sur YouTube, après, on dit, ton pays n'a pas droit à l'accès.
Alors, ça, par exemple, ça s'appelle comment? Ça s'appelle comment? La censure, non? C'est pas ça le mot qui vient avec
ouais,
ça?
Ouais, enfin. Bon, maintenant, pour revenir à ce vaccin, c'est bizarre. Dès qu'il y a eu ce truc-là, on a parlé vaccin. Il n'y a que vaccin qui peut guérir. Personne, c'est pas plus facile de faire une recherche pour un médicament qu'un vaccin.
Je sais pas, je suis pas dans les laboratoires.
Ben moi, je me pose cette question. Il faut pas qu'il y ait de médicaments, il n'y a que le vaccin. Vaccin. C'est ça qui m'étonne beaucoup. Moi, je dis d'abord, une maladie, on cherche un médicament. Des cachets, des ampoules, je sais pas, hein? Quelque chose qui peut guérir ou diminuer la douleur, je sais pas, moi. Non, là, on parle vaccin. Moi, je vais pas me faire vacciner. Je vais attendre que le président de la République se vaccine et qu'il meure. Après, je vais pas aller. Éventuellement, tu vois. Non, parce que c'est devenu grave, hein, tout ce qui se dit là-dessus. Il y a du vrai, bien sûr, dans la vidéo, hein. Et des fois, tu es choqué d'entendre certains trucs, quoi. Hein? Parce qu'au départ, ils disent dans la vidéo aussi que ça a été fabriqué il y a longtemps à l'avance, c'était en préparation ce projet-là. Donc les anciens chefs d'État doivent être au courant. Ils sont plus là pour parler, certains. Mais je suis sûr qu'eux, ils connaissent la vérité sur ça.
Ben là, là,
il fallait tuer. Il était prévu que ce qu'ils disent dans la vidéo, que ce virus devait tuer.
Ah, parce que
c'est des raisons économiques et surtout, on est trop nombreux sur la Terre.
Alors après,
ça devient compliqué.
Ça, il faut le prendre à la légère. Il faut mesurer les choses. Il faut peut-être aller vérifier aussi certaines choses. Là, par rapport à ce que tu disais sur le vaccin, j'ai Rothea qui m'écrit « Un vaccin conçu en moins d'un an sur un virus inconnu, on nous prend vraiment pour des cons. » Voilà la réaction. Est-ce que toi, tu te ferais vacciner confiné?
Non, je t'ai dit non. Je ne veux pas me faire vacciner.
Toi, tu ne veux pas, hein, on est bien d'accord.
Ah non, je vais attendre que les autres soient vaccinés pour regarder ce qui se passe. Parce que regarde un peu le docteur Raoul, là, il a mis en pratique un médicament qui est connu, comme tu le dis, là, et certains le disent.
Ouais.
Tout de suite, on a dit non, non, non. Pourquoi ? Tout de suite, on dit non au médicament et on dit vaccin. Rappelle-toi au début.
Mmh.
Et en Chine, il paraît qu'ils ont utilisé le médicament du docteur Raoul.
Alors là, encore une fois, on a Madame Buzyn, tu te rappelles, Madame Buzyn qui était là, qui a été écoutée, elle a été demandée devant les tribunaux, et elle n'arrivait même pas à sortir des rapports, à sortir des chiffres, ne serait-ce que ça, là, lorsqu'on voit comment elle est paumée, hein, alors qu'elle est là, elle, c'est une audition, quoi. Elle n'a même pas les chiffres avec elle pour pouvoir expliquer pourquoi elle veut interdire l'hydroxychloroquine, quoi. Il y a un moment donné où
c'est l'État, l'affaire d'État, ça doit être trop important, qu'on n'ait pas la vraie vérité.
Mm.
Mais bon, il y a beaucoup de choses contradictoires qui nous laissent bien sûr penser qu'il y a quelque chose derrière tout ça.
Ben, il n'y a pas de fumée sans feu à un moment donné, et je peux comprendre aujourd'hui que ça puisse servir justement à des vraies associations complotistes, parce que faut dire aussi que les associations complotistes existent. Donc voilà, mais à un moment donné, si on leur donne le carburant pour pouvoir dire ce qu'elles ont envie de dire, c'est compliqué après, hein.
Non, mais là, c'est, on voit bien aussi de la façon dont les gouvernements prennent leurs décisions, ou quand ils disent quelque chose, après ils disent non, tu vois, ils jouent avec la population.
Merci beaucoup, en tout cas. Maruru Maitei.
Ok.
Merci d'écouter Radio 1, la première FM de Tahiti. Béni soit-il avec vous jusqu'à midi et quart. Hein, vous le savez, je serai là jusqu'à l'actu avec l'info locale présentée par Wallis Glaise. Et puis à 11h, ne manquez pas l'interview avec Teyura de Koh-Lanta. Oui, oui, notre aventurier nous parle justement de son livre Aventurier dans l'âme. Il est mon invité de 11h aujourd'hui. Mais pour l'instant, c'est toi l'invité, auditeur, auditrice de Radio 1 au 40 43 61 00. Et j'aimerais souhaiter la bienvenue à Marc sur Radio 1. Bonjour Marc.
Oui, bonjour Béni.
Alors, c'est vrai que dans le documentaire en question, vers la fin, on fait allusion à une lettre du Vatican écrite à Donald Trump. Est-ce que toi, tu as l'air de savoir de quoi on parle? Est-ce que tu veux nous éclaircir un petit peu?
Eh bien oui, je trouve intéressant de partager cette information. Donc, il faut savoir que Monseigneur Vigano, dont il est question vers la fin du reportage, est l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis. Donc, il a écrit une lettre le 25 octobre au président Donald Trump, et dans cette lettre, il évoque un sujet d'actualité, c'est The Great Reset, la grande réinitialisation. Donc, celle-ci est mise en œuvre par le Forum économique de Davos dans le cadre de la crise sanitaire. Et donc, je voudrais vous en lire quelques extraits. Le but de la grande réinitialisation est l'imposition d'une dictature de la santé visant l'imposition de mesures liberticides cachées derrière des promesses tentantes d'assurer un revenu universel et d'annuler la dette individuelle. Le prix de ces concessions du Fonds monétaire international sera la renonciation à la propriété privée et l'adhésion à un programme de vaccination contre Covid-19 et Covid-21. Vous avez bien entendu. Promu par Bill Gates avec la collaboration des principaux groupes pharmaceutiques. Au-delà des énormes intérêts économiques qui motivent les promoteurs de la grande réinitialisation, l'imposition de la vaccination s'accompagnera de l'exigence d'un passeport sanitaire et d'une identification numérique, avec pour conséquence le suivi des contacts de la population du monde entier. Ceux qui n'accepteront pas ces mesures seront confinés dans des camps de détention ou placés en résidence surveillée et tous leurs biens seront confisqués. Monsieur le Président, j'imagine que vous savez déjà que dans certains pays, la grande réinitialisation sera activée entre la fin de cette année et le premier trimestre de 2021. À cet effet, de nouveaux verrouillages sont prévus qui seront officiellement justifiés par une supposée deuxième et troisième vague de la pandémie. Vous connaissez bien les moyens qui ont été déployés pour semer la panique et légitimer les limitations draconiennes des libertés individuelles, provoquant astucieusement une crise économique mondiale. Dans les intentions de ces architectes, cette crise servira à rendre irréversible le recours des nations à la grande réinitialisation, donnant ainsi le coup final à un monde dont ils veulent complètement annuler l'existence et la mémoire même. Jusqu'à il y a quelques mois, il était facile de dénigrer en tant que théoricien du complot ceux qui dénonçaient ces plans terribles, que l'on voit maintenant se réaliser dans les moindres détails. Personne, jusqu'en février dernier, n'aurait jamais pensé que, dans toutes nos villes, des citoyens seraient arrêtés simplement pour avoir voulu marcher dans la rue, respirer, vouloir garder leurs affaires ouvertes, vouloir aller à l'église le dimanche. Pourtant, maintenant, cela se passe partout dans le monde. Et tandis que les politiciens sont barricadés à l'intérieur de leurs palais, promulguant des décrets comme des satrapes persans, les entreprises font faillite, les magasins ferment et les gens sont empêchés de vivre, de voyager, de travailler, de prier. Les conséquences psychologiques désastreuses de cette opération se voient déjà, à commencer par les suicides d'entrepreneurs désespérés. Monsieur le Président, vous avez clairement déclaré que vous vouliez défendre la nation unique sous Dieu, les libertés fondamentales et les valeurs non négociables qui sont niées et combattues aujourd'hui. C'est vous, cher Président, qui êtes celui qui s'oppose à l'état profond, l'assaut final des enfants des ténèbres. Votre adversaire est aussi notre adversaire, c'est l'ennemi du genre humain, celui qui est un meurtrier depuis le début. Voilà, donc c'est un résumé succinct en quelque sorte. J'ai sectionné les
alors,
passages
tu peux nous rappeler,
qui me semblaient le plus marquant.
Tu peux nous rappeler qui a écrit ça, s'il te plaît? Et est-ce que ça a été vérifié, que c'est bien écrit?
C'est tout à fait vérifié. D'ailleurs, l'archevêque Vigano s'est exprimé plusieurs fois sur le sujet. Il a écrit plusieurs lettres qui sont ouvertes. Hein, n'importe qui peut les lire. Donc, Monseigneur Vigano, c'est l'ancien ambassadeur du Vatican aux États-Unis.
D'accord. Alors, tu sais très très bien, Marc, que une bonne partie des personnes qui nous écoutent,
oui,
sont en train de dire voilà encore un autre complotiste.
Tout à fait, tout à fait.
Tu le sais ça?
Je le sais. Absolument.
Et comment tu réagis lorsqu'on va si on te rit au nez, si on te dit mais attends, c'est du n'importe quoi ce que tu racontes. C'est quoi ta réaction à ce moment-là?
Eh bien, je pense qu'il est toujours plus judicieux d'écouter les personnes qui n'ont pas d'intérêt dans cette affaire, qui au contraire tout à risquer en s'exprimant comme ils le font.
À qui paye le crime? C'est certainement pas à Marc aujourd'hui.
Absolument pas, non, absolument pas. Mais justement, en tant qu'habitant de la Polynésie française, je trouve extrêmement important de partager ce qu'il me semble avoir compris. D'ailleurs, par ailleurs, il me semble que tu étais intéressé par des personnes qui auraient pu s'exprimer sur la vaccination.
Oui, tout à fait.
Alors, pour ma part, j'ai écouté différents médecins et professeurs indépendants. Alors, je peux citer le professeur Fourtillan, le docteur Tal Chaleur, le docteur Karim Adej, le docteur Roberto Petreia, ainsi que la généticienne Alexandra Orion-Code qui s'exprime, qui prend la parole dans le reportage dont il est question aujourd'hui. Je recommande à tout le monde de se faire son opinion en regardant objectivement ce reportage. Eh bien, lorsque j'écoute ces personnes que je viens de citer, ma foi, pour ma part, non, je ne me ferai pas vacciner. Il en est hors de question. Le professeur Fourtillan dit qu'il ne faut pas 2 ans pour élaborer un vaccin, mais 10.
Mmh.
De plus, si vous voulez avoir des informations plus concrètes là-dessus, il suffit de prendre en compte cette décision du Conseil européen datant de fin juillet. Alors, il a été décidé de modifier une loi, un dispositif hérité des procès de Nuremberg, afin de permettre aux États de décider, eh bien, d'administrer à la population un vaccin qui contiendrait donc de l'OGM ou des médicaments contenant de l'OGM. Bon, on n'en a pas encore entendu parler, mais j'imagine qu'on en entendra en parler bientôt. Donc tout ça me semble extrêmement dangereux et me semble parfaitement être en relation avec la fin du reportage. Donc c'est-à-dire que quelque chose se passe à très haut niveau, au niveau de Davos. C'est-à-dire que Mgr Vigano, ainsi que par exemple Robert Kennedy Jr., parle tout bonnement, eh bien, d'un complot d'envergure mondiale fomenté par des milliardaires.
Alors, la chose qui revient également très régulièrement pour les anti-complotistes, je vais les appeler comme ça, hein, si tu me le permets.
Bien sûr, qu'est-ce
qu'ils vont te dire ? Ils vont te dire, mais attends, pour un complot de cette dimension, ça prend plusieurs milliers, voire peut-être même 1 million ou 2 millions de personnes pour pouvoir monter ce truc-là. Comment se fait-il qu'il n'y aurait pas eu de fuite ? Il n'y a pas quelqu'un dans toute cette masse de personnes qui seraient impliquées, qui fuiterait, quoi.
Eh bien, Vigano en est une.
Je me fais l'avocat du diable, hein, t'as bien compris.
S'il a été ambassadeur du Vatican aux États-Unis, ça veut dire qu'il dispose d'informations de très haut niveau. Cet homme dispose littéralement d'espions, d'agents de renseignement capables de l'informer de ce qui se passe.
D'accord. Merci beaucoup Marc de ton intervention.
C'est moi qui te remercie, Benny.
Ben, on est là pour ça, on est là pour se donner la parole et quand ça arrive comme ça, eh bien c'est le fondement, c'est l'essence même de cette émission. Tout le monde a le droit de s'exprimer et quand je vois, je suis en train de dire sur les réseaux sociaux, je suis pas certain encore de l'info, il semblerait que le film a été définitivement censuré. Alors c'est la fille de Rothschild qui en parle.
Évidemment.
Voilà. C'est en train de se diffuser en ce moment. On verra le cours des choses. En tout cas, tu as la parole quand tu veux sur Radio 1, la première FM de Tahiti.
C'est vraiment très gentil à toi, Benny.
Allez, je t'en prie. Bonne journée. À toi aussi. Bye bye. Et bien voilà.
À vos côtés, à tout moment. Sur Radio 1.
Alors, on va composer tout de suite un numéro de téléphone, celui de Joe. Joe veut intervenir aujourd'hui et il a bien raison d'intervenir. Joe, si tu es avec nous, je suis en train de t'appeler en ce moment. Ça va sonner chez toi, mon Joe. Et puis nous avons d'autres personnes qui veulent bien sûr intervenir au 40 43 61 00. Joe, est-ce que tu es là ?
Oui, Benny.
Salut, mon Joe, comment vas-tu ?
Ça va très bien et toi ?
Eh, c'est pas tout le monde qui a un mec qui l'appelle et toute la Polynésie qui entend que voilà, tu vas pouvoir parler. Manjo, sur quoi tu voulais réagir, dis-moi ?
Alors, je voulais réagir pas sur l'auditeur qui vient de parler, mais sur l'auditeur précédent.
Oui.
Alors, première chose concernant les médicaments sur les virus.
Oui.
Alors, il faut savoir qu'il y a très peu de médicaments qui sont efficaces sur les virus. Il n'y a que dans quelques cas sur des virus très graves où on utilise des médicaments.
Bien sûr.
Et sinon, la majorité de la protection contre les virus, c'est les vaccins. Donc, c'est pour ça qu'ils cherchent un vaccin avant de chercher un médicament.
Là, tu réponds à notre auditeur qui se fait appeler Confini.
Exactement.
Pour lui dire, voilà pourquoi on doit aller à la recherche d'un vaccin. C'est tout simplement parce que les médicaments, c'est très difficile de faire un médicament contre un virus.
Voilà, et c'est y en a très très peu. Il y a beaucoup de maladies à virus comme la grippe où on traite des symptômes mais on ne traite pas le virus en lui-même. On laisse le système immunitaire faire le boulot.
Très bien, merci beaucoup de ton intervention.
Et ensuite, deuxième chose concernant le professeur Raoult dont on a parlé pas mal ce matin.
Oui.
Il a un background énorme, il a un super CV. Mais moi, j'ai eu deux problèmes avec ce qu'il a fait, ce que j'ai entendu au cours de cette année.
Oui.
C'est tout d'abord des professeurs, des chercheurs de ce niveau-là. C'est très rare de les voir se mettre en avant eux-mêmes dans les médias. Et c'est ce qui s'est passé avec lui dès le début. Et ensuite, deuxième chose, c'est ses premières études qu'il a publiées. Donc il a publié lui-même le résultat, alors que ça se fait jamais comme ça dans la recherche scientifique. Moi qui étais stagiaire dans un laboratoire de recherche, j'ai travaillé sur des... Alors c'était en agronomie, mais c'est la même méthode de recherche. La base qu'on t'apprend, c'est quand tu fais une étude, tu prends un groupe témoin pour vérifier que ce que tu essayes de montrer est vrai et c'est pas juste un effet qui est dû à d'autres facteurs.
Mais est-ce qu'il a pas agi justement sous la pression des différentes politiques et tout pour pouvoir fournir quelque chose au moment où on lui demandait, non ? Je sais pas, oui, c'est ça comme ça. Hein.
Pour moi, quand on est un scientifique de ce niveau, c'est la première chose qu'on regarde dans une étude. Est-ce qu'il y a bien un témoin ? Est-ce qu'au niveau... méthodologie, c'est validé.
Est-ce que tu te rappelles de la réponse du professeur Raoul à ce moment-là, lorsqu'on lui a reproché ça? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, Monsieur Macron a dit que nous sommes en guerre et en temps de guerre, on ne prend pas le temps à réfléchir si oui ou non l'étude est bonne. On réagit et on sauve des vies. Voilà la réponse de Raoult.
Oui, mais c'est pour ça aussi qu'il y a eu toute cette levée de bouclier de tout le monde scientifique, parce que dans les méthodes scientifiques qui ont prouvé leur efficacité avec toutes les technologies qu'on a aujourd'hui, c'est la base de faire un témoin. Pour vérifier que ce soit pas un facteur extérieur qui agit, c'est pas le médicament qu'on donne directement.
Voilà. Alors, très bien.
C'est juste pour apporter ça, parce que c'est pour ça qu'il y a eu un tel tollé. Voilà.
Bah, c'est quelqu'un de laboratoire qui parle. Merci beaucoup à toi. Bonne journée. Gros bisous, Magie.
Bonne journée.
Bye bye. Je rappelle quand même qu'il y avait eu effectivement une étude de Lancet. Lancet, c'est le Saint Graal du Saint Graal de tout ce qui est en médecine scientifique. Lorsque tu parais dans Lancet, c'est que tu as fait la superbe étude, mieux que tout le monde. Et puis il se trouve que c'est sorti un vendredi, juste avant un long week-end de Pâques. Et en 4 jours, tout a été démonté par quelques scientifiques qui ont dit en 15 minutes, on est capable de le démonter. Ça, c'est pas complotiste, c'est la réalité, c'est ce qui s'est vraiment passé. Et on sait très bien que pendant le week-end de Pâques, il n'y avait plus rien, on n'en parlait plus sur les médias, parce que voilà, la nouvelle est la nouvelle de dire que l'hydroxychloroquine était dangereuse a fait un bruit énorme parce que c'était dans Lancet, mais celle de dire que c'était frauduleux a fait beaucoup moins de ravages, beaucoup moins de bruit, et du coup dans le conscient collectif c'est le danger de l'hydroxychloroquine qui est resté dans le conscient collectif. Radio 1, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Jacques, je reviens juste pour une petite morale de l'histoire.
Oui.
Quand on entend tout ça, la morale, elle est sexy, à mon avis.
Excuse-moi, Jacques, je t'entends pas très bien. Est-ce que ta radio est ouverte?
Non, c'est fermé, là, voilà. D'accord. Non, voilà, c'est mieux, là.
Ouais, ça c'est mieux, vas-y.
Bon, juste une petite morale sur l'histoire. Dans toutes circonstances, les riches seront toujours plus riches et les pauvres seront toujours plus pauvres. Maintenant, c'est à méditer pour voir où on nous amène.
Effectivement, c'est juste un point de l'histoire qui continue.
Voilà, c'est tout. Puis je te souhaite une bonne semaine. Et puis.
Moi aussi, Jacques.
Courage à tous. Protégez-vous, protégez-vous. Et voilà.
Merci, Jacques. Bisous magiques. Voilà, petite intervention de Jacques. Effectivement, c'est un résumé de l'histoire de l'humanité. Les riches resteront riches et les pauvres resteront pauvres. Malheureusement, le problème qu'on a souvent, c'est qu'on ne comprend pas que ce sont. On peut confondre de savoir lesquels ont plus besoin des autres. Malheureusement, les pauvres pensent qu'ils ont besoin des riches, alors que peut-être il faut regarder dans l'autre sens. C'est un petit peu comme lorsqu'on dit qu'il y a des chiens qui sont agressifs, on regarde pas toujours du bon côté de la laisse. Radio 1, 10h35, il vous reste 5 petites minutes si vous voulez réagir à cette émission. 40 43 61 00. Radio 1, bonjour.
Salut Benny.
Jean-Paul, rapidement.
Moi, ce que je voulais dire simplement, c'est que j'ai un ami qui travaille et qui a de la famille en Chine. Oui, il est chinois, évidemment. Et qui me disait que là-bas, c'est fini.
Oui, c'est complètement.
L'économie est repartie, ils portent plus de masque. Alors, je ne comprends pas que nous, on patauge.
Aïe. Est-ce qu'ils ont essayé l'hydroxychloroquine en Chine?
J'en sais rien. Ils ont fait, mais apparemment, on dirait que c'est sélectif. C'est-à-dire que les Européens ramassent plein la gueule. Et les Chinois, maintenant, ils repartent avec une économie encore plus forte.
Ah, ouais. Eh bien, écoute,
les gouvernements actuels qui ne font rien.
C'est comme ça.
Ils ne décident pas s'il faut les attaquer en justice ou pas, ces gens-là.
Merci, Jean-Paul. Bonne journée, bonne semaine.
Bonne journée.
Ciao, ciao. 40 43 61 00. Est-ce qu'une fois de plus, on va finir avec Jean-Paul, qui appelle régulièrement. C'est mon chroniqueur, Jean-Paul. De tout en temps, il arrive avec sa pertinence. Voilà, l'émission d'aujourd'hui. C'était, bien sûr, sur ce. Documentaire. Radio 1, bonjour. Radio 1, bonjour.
Oui.
Oui, qui est à l'appareil?
Olivier.
Allô?
Oui, allô.
On ne vous entend pas, malheureusement. Radio 1, bonjour. Ouh là là.
Allô?
Oui, il faut baisser ta radio, s'il te plaît.
Oui, ça y est, j'ai éteint.
Vas-y. Qui est à l'appareil?
Oui, c'est Nico.
Salut, Nico.
Ça va bien?
Allez, vas-y, action, réaction. Moi, ça va bien, mais on est très pressé.
Le documentaire, j'ai trouvé vraiment que c'était plutôt bien fait, avec des intervenants plutôt de qualité. Et bon, le fait qu'on ait donné la parole à ces gens-là et qu'ils ont dit ce qu'ils avaient à dire, Je pense que c'est très bon pour la démocratie, pour la liberté d'expression. C'est très bon pour que les gens, ils ouvrent un petit peu les yeux par rapport à la pensée dominante, ce qu'on nous montre à la télé en permanence, qu'on nous bombarde de messages alarmistes et compagnie. Et une démocratie, une nation, ça se fonde pas sur la pensée unique, sur un discours dominant. On doit prendre les avis de tout le monde, discuter, échanger de façon à grandir et à décider ensemble ce qui est bon pour nous. Là, c'est ce qui se passe, c'est de plus en plus malsain. On voit bien le gouvernement en France, il prend des décisions, c'est de manière de plus en plus autoritaire, presque monarchique.
Et sans consultation avec les acteurs économiques, souvent.
Sans consultation avec les acteurs économiques, les petits, parce qu'avec les gros, on sait très bien qu'ils sont de mèche. Hein, les plus gros à qui appartient la plupart des gros médias, hein, les Trahi, les Bolloré, les Bouygues et j'en passe. Donc c'est malheureux, mais aujourd'hui il faut que les gens ils se réveillent. Il y a pour moi il y a une lutte des classes. Il y a les plus riches.
Ouais, mais j'ai envie d'intervenir, Nico, là, à ce moment-là. Dis-moi un petit peu. On est tous d'accord pour dire ça, mais est-ce que demain, on est prêt à arrêter de commander nos affaires sur Amazon, d'utiliser les GAFA? Est-ce qu'on est vraiment prêt à ça? Est-ce qu'on est prêt à consommer local, à acheter les produits chez nous, ici, plutôt que de les commander sur Internet? Parce qu'on est en train de les nourrir, ces GAFA, avec ça. Est-ce qu'on est prêt à changer d'attitude, d'après toi?
Mais moi, j'ai envie de te dire, c'est un choix. C'est d'abord un choix personnel, parce que moi, ça fait longtemps que mes courses, je les fais plutôt au marché de papeté que chez les grands distributeurs locaux. Donc, le jour où on nourrira un petit peu plus nos petits producteurs, nos artisans, les gens qui font vivre l'économie, le secteur primaire, ben, déjà, on aura fait un grand pas. Mais c'est sûr que les GAFAM, on les nourrit, mais d'un autre côté, c'est quelle société on veut pour nos gamins demain. C'est continuer de les nourrir, c'est leur donner tout pouvoir.
Est-ce que tu as l'impression aujourd'hui en 2020 que nos droits d'expression sont bafoués?
Mais de plus en plus, mais complètement. Regarde la levée de bouclier totale sur ce documentaire. Les gens, ils ont juste parlé. On les traite de complotistes. Je veux dire, les mecs, ils ont donné leur avis. C'est-à-dire que quand tu donnes un avis différent, t'es un complotiste. Je veux dire, le nombre d'intellectuels en France qui aujourd'hui se disent « Ah bon ?» Ah bah on est complotistes, je veux dire les mecs c'est pas des neuneux quoi. À un moment donné, bien sûr on voit bien qu'on essaye de nous imposer une forme de pensée unique et c'est triste.
Alors après en 2h43 qu'il y ait des contre-vérités, on est bien obligé de l'admettre. Il y a des fois il y a des choses qui ont été peut-être exagérées, non?
Mais Macron en 2 minutes 43 il en dit aussi des contre-vérités. Hein. Alors en 2h43 c'est sûr qu'il y en a des contre-vérités. Il nous annonce 400 000 morts si on confine pas, 400 000 morts avec la létalité, il faudrait qu'on soit 200 millions de Français. Ouais. Donc à un moment donné, il faut arrêter de balancer des contre-vérités aussi de l'autre côté. Des contre-vérités, il y en a des deux côtés. Hein.
D'accord. Merci beaucoup de ton intervention, mon Nico.
Je vous en prie, merci Radio 1.
Ouais. Ça roule, bye bye. Radio 1, bonjour.
Hey, Anna.
Alors tu ne quittes pas, parce que normalement l'émission est terminée. Ce que je vais faire, c'est que je vais te prendre en antenne, je vais te prendre ton numéro, je te rappelle juste après le JT Vert, d'accord?
Ok, d'accord.
Ne quitte pas, s'il te plaît. Et vous le savez, hein, certains appellent ça du racolage. Moi, j'appelle ça tout simplement vous donner la parole, vous permettre justement de parler des sujets qui ont fait le buzz pendant le week-end. Et je pense que c'est très important. La preuve, vous avez été encore très très nombreux aujourd'hui à vouloir prendre la parole. Et je la donne encore la parole alors que l'émission est terminée. Et j'ai Jérôme au téléphone. Bonjour Jérôme.
Hey, Yorana.
Vas-y, ta réaction, s'il te plaît.
Ah, moi, j'ai vu le petit film aussi. J'ai apprécié les deux premières heures. Ouais. Après, c'est un peu long. Et puis après, je trouve qu'il part dans un délire quand même. C'est les deux premières heures où le virus est fabriqué par l'homme. Pourquoi pas? Mais après, qu'ils veulent exterminer, ils partent dans une dérive complète. Bon, après, pourquoi pas? Moi, je vais me faire plus complotiste que des complotistes. Si Trump a vraiment reçu cette lettre, c'est qu'il n'était pas de leur côté, puisqu'apparemment on l'appelle un peu à l'aide, quoi. Hein,
Trump s'est retiré de l'OMS, Trump est considéré comme un populiste et pas comme un mondialiste.
Voilà. Alors pourquoi? Alors est-ce qu'on lui a pas volé vraiment son élection? On s'en débarrasse.
Ah ah.
Je sais pas, il gêne, c'est puissant un président des États-Unis qui n'est pas de votre côté. On s'en débarrasse.
Bah écoute, tu sais que
c'est encore plus complotiste que les complotistes.
Mon Jérôme, et c'est certain que lorsqu'il a décidé de quitter l'OMS en pleine crise sanitaire, à mon avis, ça n'a pas dû faire rire beaucoup de gens.
Mais voilà. Et si le Vatican vient d'appeler à lui, c'est quand même extraordinaire, quoi.
Je veux attention, dire, mesdames et messieurs, c'est Jérôme qui parle, c'est pas Béni. Hein? Moi, je suis pas. Je te fais un gros bisou magique, mon Jérôme. Merci de ton intervention.
Je suis bien content d'introduire Théo là, tu vois, derrière moi. Voilà, c'est parfait.
Ciao, c'est gros bisou. Okay. Bisou magique, ciao, ciao. Non.
Dès 9h sur Radio 1, tous les jours.
Béni soit-il.